Deutsche Welle. Droits et libertés.
Il fallait bien, dans ce magazine consacré aux droits de l'homme, revenir sur le thème qui domine nos émissions toute cette semaine, les réfugiés et autres migrants qui arrivent en Europe. Nous allons refaire le point sur le débat qui agite les esprits européens et allemands, mais aussi nous pencher sur un exemple concret et voir comment, ici à Bonn, une commune de taille moyenne, on s'acquitte de l'accueil d'étrangers de plus en plus nombreux. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a fait part de sa tristesse et de sa préoccupation suite à la mort de centaines de migrants encore ces dernières semaines dans des naufrages en Méditerranée. Son porte-parole, Stéphane Dujarric, a indiqué que le secrétaire général avait même adressé une lettre au président du Conseil européen, le Polonais Donald Tusk, pressant l'Union européenne de prendre rapidement des mesures pour mettre enfin un terme au désastre, comme l'explique Stéphane Dujarric.
Dans son courrier, le secrétaire général demande à l'Union européenne de coordonner son action pour mettre un terme à cette catastrophe humanitaire. Il estime aussi que les besoins en sécurité, en protection et les droits humains des migrants et des réfugiés devaient être au cœur de la réponse. Il y a eu des discussions entre l'Union européenne et le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés pour augmenter dès maintenant la sécurité des migrants. La vraie priorité est que les migrants, les réfugiés, soient reconnus comme des humains qui ont des droits et doivent être traités avec dignité.
La chancelière allemande suggère pour sa part que la répartition des demandeurs d'asile se fasse en fonction du nombre d'habitants des pays européens et de leur santé économique. Les accords de Dublin prévoient en effet que les migrants, actuellement, doivent demander l'asile dans le premier pays dans lequel ils arrivent. Dans les faits, de nombreuses organisations doutent que les naufrages récents entraînent davantage de vraies réponses que les naufrages massifs précédents, notamment ceux au large de Lampedusa. Souvenez-vous, en octobre 2013, l'Italie avait décrété un deuil national suite à la mort de centaines de migrants en mer. À l'époque, tous les dirigeants européens avaient déjà fait part de leur horreur. Ils avaient déjà promis d'agir rapidement, de combattre les passeurs et les réseaux de trafic, mais aussi les causes économiques, sociales et politiques qui poussent tant de personnes à fuir leur pays pour l'Europe. Résultat, un an et demi plus tard, rien n'a changé. L'opération italienne Mare Nostrum de sauvetage en mer a été remplacée par les opérations Triton et Poséidon, coordonnées, elles, par l'Agence européenne de protection des frontières Frontex. Les ONG dénoncent la réponse des dirigeants européens qui continuent malgré tout de miser d'abord sur la répression au détriment de la prise en charge de la détresse des victimes, les migrants eux-mêmes. L'un d'entre eux, le Syrien Alaa Oud, raconte sa traversée.
Nous avons commencé notre voyage à 5 heures du matin en pleine mer entre la Turquie et la Grèce. Notre bateau a commencé à couler. Nous sommes quelques-uns à avoir décidé de gagner la Grèce à la nage parce que nous voulions atteindre notre objectif. Nous avons nagé pendant 3 heures.
Vu d'Allemagne et vu d'Europe, difficile d'imaginer ce que fuit quelqu'un qui préfère encourir tous ses risques et nager des heures dans l'eau froide de la mer plutôt que de rester chez lui. Et pourtant.
Je ne trouve pas ça si terrible parce que si j'ai passé les 3 dernières années en Syrie et là, tu croises la mort tous les jours. Nager dans la mer, ce n'est rien en comparaison de ce que nous avons vu. En Syrie, les gens qui marchent dans la rue, on les bombarde.
Alexander Betz dirige le Centre d'études sur les réfugiés de l'Université d'Oxford.
De plus en plus de réfugiés fuient des conflits, la violence et la persécution. Bien sûr, certains ont aussi des motivations économiques et tentent d'avoir une vie plus confortable. Une grande partie des migrants sont originaires d'Afrique de l'Ouest, surtout la Gambie, le Sénégal et le Mali.
On estime à 50 millions le nombre de personnes qui ont dû fuir de chez elles dans le monde, le nombre le plus élevé depuis 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parmi ceux qui doivent fuir leur pays, beaucoup choisissent l'Europe. Le nombre de demandes d'asile en Europe a augmenté de 25% entre 2013 et 2014. D'après le HCR, un quart des demandeurs d'asile sont d'origine afghane, érythréenne ou syrienne. Et parmi ceux qui viennent en Europe, eh bien, beaucoup choisissent l'Allemagne, qui est le pays qui reçoit le plus de demandes devant la France, la Suède, l'Italie et le Royaume-Uni. L'Allemagne, où le débat sur la réponse à donner à l'afflux de migrants et de migrants clandestins divise la société et la classe politique. Thomas de Maizière, qui est ministre de l'Intérieur, membre de la CDU, le parti d'Angela Merkel, après avoir clamé que les opérations de sauvetage en mer type Mare Nostrum incitaient surtout les passeurs à continuer leur trafic, le ministre a finalement infléchi son discours.
Ce à quoi nous assistons en ce moment en Méditerranée est une véritable tragédie et c'est aussi le résultat d'un trafic de grande envergure organisé par des criminels. La cause en est triple, pauvreté, persécution et criminalité. C'est pourquoi il nous faut une triple réponse, faire preuve d'humanité, mener une politique de développement stabilisatrice et renforcer la répression.
L'opposition de gauche et les écologistes demandent expressément au gouvernement allemand de lutter contre les racines du mal, celles qui poussent au départ, les guerres, les catastrophes et la pauvreté. Et les armateurs allemands ne croient plus non plus aux grandes promesses. Ils ont d'ailleurs leur fédération, en tout cas, a envoyé un courrier au gouvernement allemand. 40 000 personnes ont été sauvées l'année dernière par des navires commerciaux. Le nombre de naufragés est en augmentation et les armateurs ne peuvent pas faire face. C'est ce que nous dit leur chef, Ralf Nagel.
Cela veut dire que nos marins voient des gens se noyer, des femmes, des enfants. Et même parmi le peu de gens que nous parvenons à hisser à bord, certains meurent dès la première heure d'hypothermie ou parce qu'ils sont à bout de force. C'est quelque chose qui nous plonge tous dans un immense désarroi.
Messieurs, les pillards de l'espoir qui nous avaient aveuglés, vous avez serré sur nos yeux le bandeau du mensonge. Vous avez répandu partout le parfum dégueulasse du mépris de l'étranger. C'est fini, je ne serai plus de votre cruauté.
Alors Bonn, la ville où nous nous trouvons actuellement, c'est l'ancienne capitale de l'Allemagne de l'Ouest. Elle compte un seul foyer de réfugiés et elle va en ouvrir un deuxième dans peu de temps. La journée porte ouverte de ce nouveau centre d'accueil a d'ailleurs lieu cette semaine. Comme ça, les habitants de Bonn pourront voir comment les nouveaux réfugiés vont vivre juste à côté de chez eux. Céline Verger, bonjour.
Bonjour Sandrine.
Alors vous êtes rendue vous à la mairie pour vous faire une idée de la façon dont l'accueil des réfugiés est organisé au niveau local.
Exactement. Mon interlocuteur Peter Tilgen de la mairie de Bonn m'a expliqué tout le travail que ce nouvel afflux représente pour eux.
À cause de la forte affluence, les communes sont mises au courant que quelques jours seulement avant l'arrivée des réfugiés. Nous nous chargeons de trouver un logement pour pouvoir les accueillir tout de suite. Nous préparons leur venue afin de pouvoir garantir des prestations dès leur premier jour ici, à Bonn. Le service des étrangers est alerté pour que les réfugiés disposent du minimum.
Ibrahim Barry, un réfugié de Guinée-Conakry qui habite dans ce foyer de Bonn, raconte son arrivée ici.
Le 1er janvier, il est arrivé en Allemagne. Bon, tu es quitté en Guinée, tu es parti en Bissau, notre là, il a aidé moi pour papier là-bas, pour arriver en France. Arrivé en France, donc il a pris le virgule pour arriver en Allemagne.
Ibrahim Barry est donc arrivé en bus depuis la France à Bonn, et cela un peu par hasard. Au départ, il pensait rejoindre un ami à Hambourg, mais il a reçu d'une connaissance un ticket de car pour Dortmund, sans réellement savoir où il avait mis les pieds. Par la suite, Ibrahim Barry a décidé de rester dans la région, à Bonn, où il cohabite maintenant avec d'autres réfugiés. Et c'est justement sur le thème de la cohabitation entre les immigrés qu'il y a le plus de problèmes, selon Peter Tilgen.
Le plus grand défi pour nous, c'est que 34 ethnies et de nombreuses religions se retrouvent sous un même toit. Entre-temps, à Bonn, il y a plus de 900 personnes d'horizons très divers dans nos foyers. Les rassembler pour qu'ils puissent vivre paisiblement ensemble, c'est cela notre plus grand défi.
Alors vivre paisiblement ensemble peut-être, mais ils s'installent dans des quartiers habités. Alors que disent les habitants de Bonn qui étaient là avant eux ?
Donc j'ai assisté à une de ces soirées d'information organisées par la mairie, mais avec interdiction d'allumer mon micro, et je dois dire que les Bonnois sont un peu partagés. Néanmoins, pour la plupart des habitants, l'arrivée des réfugiés ne pose pas de problème.
Je le dis avec conviction, de prime abord, les gens accueillent favorablement les réfugiés à Bonn. Cela est probablement dû au fait de l'histoire de la ville. En tant qu'ancienne capitale, Bonn est traditionnellement une ville très internationale. Ici, on est habitué à côtoyer des personnes d'autres cultures. Une autre raison est que nous avons organisé aussi une campagne d'information très ouverte. Nous informons les gens et grâce à cela, beaucoup d'habitants se sont montrés serviables envers les nouveaux réfugiés.
Mais un certain nombre d'habitants a quand même peur de voir tous ces réfugiés s'installer dans leur ville.
Peur de quoi ?
L'argument le plus fréquent est que ces personnes viennent de régions en crise et qu'elles sont du coup traumatisées. Les Bonnois craignent une recrudescence de la criminalité. Il y a aussi la peur d'avoir une société parallèle à côté de chez soi qui ne s'intègre pas. La barrière de la langue est un grand facteur et c'est pourquoi la ville de Bonn offre des cours d'allemand gratuits. Ibrahim Bari a d'ailleurs commencé un de ses cours et sait déjà dire quelques mots dans la langue.
Guten Tag, guten Nacht, guten Morgen et merci, thanks.
Et maintenant, Ibrahim, que compte-t-il faire alors ?
La situation n'est pas facile pour lui. En Guinée, il travaillait dans la riziculture et comme il n'est jamais allé à l'école, il est analphabète. Il souhaite donc continuer ses cours, s'instruire. Pour l'instant, il ne voit pas de possibilité de faire venir ses enfants et sa femme qu'il a dû laisser derrière lui en Afrique.
Merci Céline Verger. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir écouté. Pour le réécouter ou le podcaster, rendez-vous sur notre site internet dw.de/français. Pour nous écrire, toujours la même adresse, français@dw.de, sans la cédille à français. Salut et à la semaine prochaine.
Oh, Africa, Africa, mon beau continent. Si on vient à nos îles, c'est seulement pour. C'est pas facile à voter.